c'est plus d'infos locales.
Bonsoir, et bien pour cette deuxième partie de l'émission, on va un petit peu innover puisque pour la première fois depuis qu'on fait cette édition, on va parler de bandes dessinées puisque il s'en passe aussi, il y a beaucoup d'écritures noires et de dessins entre guillemets très noirs dans ce genre littéraire et étant de plus en plus de contact avec certains éditeurs, on a quelques jolies nouveautés à vous proposer. Et puis d'abord une petite nouvelle qui nous a fait plaisir d'ailleurs.
Oui, parce que Jean-Christophe Paul, qu'on avait interviewé ici même
il y a quelques mois, au mois de mai,
pour son roman, sa BD qui s'appelle Durififi chez les Clébards, qui était paru à la boîte à bulles, vient de recevoir le prix One Shot, prix qui récompense un auteur de BD au Festival de Pola.
De Cognac, qui était le week-end dernier.
Voilà,
c'est un prix intéressant parce que ça peut faire connaître, alors que d'abord, c'est pas un auteur très connu. Et puis en plus, cette édition, La Boîte à Bulles, n'est pas une édition très très connue pour l'instant. Elle ne fait pas partie encore des grandes maisons comme Gasterman ou Dargo, mais... C'est intéressant, ce prix est très intéressant.
Voilà, et donc si jamais ça vous dit rien, vous avez raté cette émission, ce qui est quand même ce qui nous étonnerait, vous pouvez toujours la réécouter sur notre site internet www.lanoirode.com et vous aurez l'interview de Jean-Christophe Paul qui parle de son écriture.
Oui, puisque on peut préciser, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais on peut réécouter, ne serait-ce que pour avoir certaines références, ou tout simplement avoir le synopsis et les thèmes abordés à chaque émission sur le site de La Noiraude. Alors justement, on parle de La Boîte à Bulles. Eh bien, moi, je vais parler d'un album qui est paru, je pense, le mois dernier, de Nabiel Canaan, qui est un Britannique. Et cet album, pardon, s'appelle Les Noyés. Alors, ce qui est le principe de narration, le scénario est assez original parce que il n'est pas linéaire. On va suivre en même temps plusieurs personnages. En fait, chaque plan, chaque feuille, on va suivre un personnage différent. Il y a Queen, qui est un PDG. Qui est certainement perclus de problèmes, puisqu'il est même incapable de quitter sa tour, son bureau, le jour de l'anniversaire de son anniversaire de mariage. Ceci dit, petite parenthèse, quand on voit sa femme, c'est peut-être pas non plus... c'est peut-être un peu exprès. Bon, il y a aussi Hayley, qui est accro à la drogue et qui trouve refuge chez sa sœur pour fuir son dealer à qui elle doit de l'argent. Une histoire assez banale, mais qui est très 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 bien racontée et par le scénario et par les dessins de Nabiel Canaan. On a aussi son thérapeute, le thérapeute de Hayley, qui est hanté par la mort d'Emily, un personnage qu'on voit de manière très épisodique, puisque c'est grâce à des flashbacks, elle est morte noyée sur le bateau, vous voyez, hein, pas l'animal, sur le yacht de Queen, donc le fameux PDG, et elle est morte noyée 5 ans plus tôt. Et puis, comme je vous en parlais, il y a la femme de Queen qui est abandonnée par son mari, mais alors elle, c'est une garce de première, et elle se venge de manière absolument odieuse, en particulier sur sa domestique. Et les destins de ces quatre personnages vont se croiser, s'entremêler, entre une histoire, alors faut s'accrocher parce que c'est vraiment une histoire très très noire et très glauque. C'est une histoire violente, mais la violence, elle n'est pas montrée et elle est surtout dans la tête des personnages. Chacun d'entre eux, en fait, a de lourds boulets comme souvenir. C'est une BD qui est en noir et blanc, avec parfois des pages grisées, comme une espèce de légère brume ou une vitre qui opacifierait les images. C'est vraiment un superbe travail. Moi, j'étais très impressionnée. Je suis pas une spécialiste de la BD, mais j'étais vraiment impressionnée par la mise en image et la mise en scène. On a des gros plans, des pans plus larges, presque des travelling. Nabil Canan joue aussi énormément sur le rythme. Et plus spécialement, ce qui donne en fait une espèce de troisième dimension à ses dessins, c'est-à-dire le temps, grâce à tous les flashbacks avec les retours sur Émilie la noyée. Vraiment, c'est très beau. Alors, c'est un format un peu spécial. Je serais incapable de dire le format. En tout cas, c'est pas le format BD classique.
Non, c'est un peu plus petit. C'est un peu plus grand que A5. Hein.
Voilà, c'est un peu plus grand que A5. Couverture souple.
Ouais. Et bleu. Voilà, la couverture bleu. Est bleutée. Très belle.
Je vous dis ça parce que je suis pas sûre que les libraires, que ce soit de la région ou d'ailleurs, mettent ce genre de bande dessinée en exergue, de le mettre vraiment en début de gondole, mais il faut le réclamer et il faut le chercher parce que on découvre un très bon dessinateur et en même temps scénariste.
Il n'y en a pas tant que ça de britanniques qui sont publiés en France.
Exactement. Voilà, Nabil Canan, Les Noyés. Donc Jacques, alors lui, là tu vas nous parler d'une vedette.
Voilà, c'est deux vedettes en fait, c'est Loustal Paringo.
En deux mots.
Loustal et Paringo, donc, qui sont deux auteurs donc, de BD. Loustal qui s'occupe plutôt des dessins, Paringo des textes. Paringo fut un temps le rédacteur en chef de Rock
fut
et Folk.
Fut un temps
le rédacteur en chef de Rock et Folk, mythique. Et depuis depuis une vingtaine d'années, en fait, ils font de temps en temps un petit album ensemble.
Un album de BD, pas un album
de BD,
musique.
Bien sûr.
Non, parce que comme tu parles de
Rock
et Folk.
Non, un album de BD. Et donc celui-là, ça doit être le 10 ou 11e. Ça s'appelle Le sang des voyous. Et c'est paru donc chez Casterman. C'est une histoire évidemment assez sombre. Louis, qui est un tueur à gages sur la fin de sa vie, il est usé malade. Il ne tient guère qu'à coup d'injection de morphine.
Et à déconseiller.
Enfin bon, là, le pauvre, il n'y a que ça qui le fait tenir. Et il va revisiter son passé. En une longue balade meurtrière. Il va assouvir une vengeance, en fait, qu'il a un peu trop longtemps contenue. Une vengeance que, en fait, l'approche de la mort fait quasiment exploser dans son cerveau, un peu comme le shoot de
c'est
drogue.
C'est peut-être aussi la shoot de
voilà,
morphine.
Voilà, c'est très très mêlé. Et bon, on se demande si la rédemption lui offrira une chance de racheter son âme, comme on dit. Et
je tente sa voile pudique sur
voilà,
la fin.
Exactement. C'est une tragédie moderne, urbaine, une équipée qui est mise en scène en lumière par Loustal. Chaque image, chaque case éclaire une partie du récit. C'est bien plus qu'un illustrateur qui mettrait en scène l'histoire de l'auteur. Il y a une véritable symbiose entre les deux. Je ne sais pas comment ils travaillent exactement, mais je suppose qu'il doit y avoir des allers-retours entre le scénario et les dessins, parce que on sent vraiment la symbiose complètement entre le texte et l'image. C'est en fait presque une composition, comme un duo musical. Enfin bon, c'est comme ça que je le vois en tous les cas.
Bah, Loustal étant passionné de musique,
voilà,
c'est très possible.
Voilà, et
Paringo
aussi, donc ça, c'est pas tellement étonnant. Et donc, en fait, le format des cases s'adapte à l'image, comme il va jusqu'à prendre toute la page, un peu, pas vraiment cinéma, mais un peu comme un long plan fixe. Et puis pendant ce temps-là, l'intrigue, elle s'arrête, et on regarde le personnage, et puis ça repart. Moi, en tous les cas, c'est un album, là, c'est vraiment un must, quoi, un album qui va marquer la carrière des deux Loustal Paringo. C'est leur 10 ou 11e. Ils ont fait le mythique Barney et la note bleue en 87 déjà, qui racontait une biographie un peu mythifiée du jazzman Barney Whelan, qui est, comme je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, qui est né à Nice et qui est mort en 96 à Paris, je crois bien. Voilà, donc Le sang des voyous, je pense que, je ne sais pas si je l'avais dit, oui. Le sang des voyous de Loustal et Paringo, paru chez Casterman, à mon avis, c'est immanquable, quoi.
Moi, je voudrais préciser que Loustal, c'est vraiment un grand artiste.
Voilà, c'est un artiste. C'est lui qui avait d'ailleurs fait l'affiche de notre festival Cannes Polar, dont on parlait tout à l'heure, l'an dernier.
Magnifique affiche.
Voilà, magnifique affiche. C'est vraiment, oui, c'est pas des dessins, c'est des dessins.
Ce sont de beaux dessins. Non, mais je précise parce que souvent c'est un petit peu comme on décrit le polar par rapport à la littérature entre guillemets blanche. On dit parle toujours de sous-littérature. Il y a encore des gens pour penser que des dessinateurs de BD sont pas forcément de bons dessinateurs.
Non, puis en plus c'est pas du tout de la BD belge avec des 8 cases par.
Qu'est-ce que t'as contre
8 cases par page et avec des bulles. Il y a quasiment pas de bulles. Il y a un texte qui
souligne
le dessin ou le contraire, je sais pas, c'est
Voilà, et vraiment, Loustal, encore une fois, c'est un grand, voilà. parmi les grands.
Donc, un petit peu de musique. Donc, c'est un choix de Loustal lui-même dans le dossier de presse de l'album. Il disait que dans les disques qu'il écoutait en faisant cet album, il y avait une chanson de John Cale et Kevin Ayers, enfin, une chanson interprétée par John Cale, Kevin Ayers et Nico, qui s'appelle, eh ben, comme tout à l'heure, Heartbreak Hotel. Voilà, ben, l'hôtel des cœurs brisés, donc c'est une version un peu plus sombre que celle tout à l'heure de Lynyrd Skynyrd.
Ah oui, c'est impressionnant, moi je connaissais
et
pas.
Et qui colle très bien, il y a un moment dans le Loustal, là, Louis se retrouve dans une chambre d'hôtel et ça va impeccable. L'album, c'est un album de Kevin Ayers, en fait, qui a réuni une bande de copains, John Cale, Brian Eno, Nico, Robert Wyatt, entre autres. Kevin Ayers qui a fondé le Soft Machine. L'album s'appelle June 1, 1974.
Bravo pour l'accent.
1er juin 1974, voilà.
Tu fais des progrès.
C'est époque bien rock'n'roll, psyché.
D'accord. On va continuer. Et là, on parle d'un album d'un Italien, de trois Italiens.
Voilà. Toujours paru chez Casterman. L'album s'appelle Nero, la cinquième victime. C'est dessiné par Muti. Le scénario est de Kripa. Et le coloriste est Bucciacchini, je ne sais pas.
Il va falloir que je mette un peu sur l'italien.
Donc, c'est le premier tome apparemment d'une collection. C'est publié chez Casterman dans la collection Ligne Rouge. Giuliano Nero, c'est un flic reconverti en privé. Il habite Brescia, tout comme d'ailleurs Muti, donc en Italie. C'est un sombre héros. Au bord de la, ouais.
Au sombrero, au manti.
Mais non, pas du tout, parce que c'est pas du tout rigolo. Il est au bord de la déprime. Et en fait, il va être sorti de son apathie par un homme qui est encore pire que lui. Lui, il est au bord des espoirs parce qu'en fait, on vient d'assassiner sa fille, Sylvia, qui a été retrouvée égorgée. La police a tout de suite arrêté un suspect, mais en fait, ce n'est qu'un lampiste qui va porter le chapeau pour le vrai criminel. Et le vieux monsieur persuade Nero de mener sa propre enquête et de découvrir le vrai tueur. Sylvia a été égorgée, puis la plaie a été recousue. Donc grâce à son copain légiste, Nero remonte tranquillement la piste, et puis tout de suite, assez rapidement, une deuxième victime survient, puis une troisième qui est un chien. Même procédé, égorgé, recousu.
Il a même été éventré, si je me souviens bien.
Voilà, exactement. Donc là, le scénario est bon, c'est assez classique. Il y a une fin ouverte pour, parce que apparemment c'est le tome 1, donc je suppose qu'il va y en avoir d'autres. Mais le dessin est vraiment superbe. Le Nero est très très bien campé. Il y a de très grands aplats pour les décors. Et quant au personnage, on a parfois l'impression qu'il bouge. Les cadrages sont aussi, une fois de plus, assez cinématographiques. L'ensemble est très sombre. Il pleut assez souvent. Je ne sais pas si c'est le cas tout le temps à Brescia, mais en tous les cas, dans ce roman, dans ce tome-là, oui. Je voulais aussi parler du... Bon, le dessin, c'est Muti, mais le coloriste Bucaccini a fait vraiment un grand travail.
C'est pas des pattes, hein.
Non, c'est pas des pattes. Et il est, d'ailleurs, il est cité sur l'album au même titre que les deux auteurs du dessin et du scénario.
On va être obligé de conclure, Jacques, donc il nous reste peu de temps pour peut-être reciter le nom, donc Nero.
Nero, la cinquième victime de Muti, Kripa et Bucaccini, paru chez Casterman dans la collection Ligne Rouge.
Voilà, à la prochaine
fois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Les flics t'ont classé
Agora nous donne l'heure. 19h sur Agora FM, bon appétit à tous.